sommes le 1er octobre et en octobre, chaque année, il y a maintenant la fête de la science et Radio Campus est partenaire donc de ce festival ou de cette fête hein, depuis l'origine. Chaque année, donc, nous accueillons les personnes qui le font vivre, ce festival, et nous allons sur les lieux où se produisent les démonstrations, les rencontres, les réflexions aussi. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai invité la personne que vous avez pu entendre dans le sujet précédent, du CRIL, donc le Centre de Recherche en Informatique de Lens. Il s'appelle Sébastien Cognesny, donc il est directeur de recherche CNRS dans ce centre et donc dans le domaine, on va dire, de la logique pour l'intelligence artificielle. Et puis aujourd'hui, eh bien, il est aussi, en tant qu'invité, on va dire celui qui va représenter quelque part cette fête de la science, l'ambassadeur. Bonjour, monsieur l'ambassadeur.
Bonjour.
Alors, heureux de vous accueillir pour la présentation de cet événement qui va démarrer notamment en Hauts-de-France, mais partout en France. On a peut-être des spécificités régionales, je ne sais pas si ça existe.
Non, c'est un événement national et donc ça fait partie du grand événement national.
Voilà. Est-ce qu'il est de la même énergie dans toutes les universités de la région Hauts-de-France ?
Ça dépend des universités, ça dépend des bonnes volontés de tout le monde, mais c'est un événement qui est vraiment très partagé, hein, dans plus de 50 communes, tous les personnels des différentes universités participent et viennent à la rencontre du public. Ouais.
Donc le public, peut-être qu'on peut l'imaginer, ce sont plutôt des étudiants, des élèves ou des gens qui ont envie de savoir, de connaître l'état de la science ?
Ben, c'est mixte et c'est souhaitable que ce le soit. C'est-à-dire qu'il y a une partie hein, des ateliers qui sont réservés pour les scolaires, justement, pour qu'ils viennent justement découvrir ce qu'est la science et puis essayer de leur apprendre des choses et puis peut-être de faire susciter des vocations aussi. Mais c'est aussi un événement grand public et qui est ouvert à tous. Mais quand on fait les ateliers, on se rend compte qu'il y a des gens de tout âge et c'est... En vrai, une vraie sortie familiale, c'est-à-dire que vous pouvez venir avec les grands-parents, les parents, les enfants, et tout le monde va réussir à ressortir quelque chose de ces visites.
Est-ce qu'il y a dans ces thèmes, dans cette grande thématique, on va dire, hein, qui est intelligence avec un S pour résumer, est-ce qu'il y a des sous-thèmes pointus ?
Alors, les gens qui participent souvent viennent présenter leur recherche, une partie de leur recherche. Donc, chaque atelier est dédié à une thématique principale, mais la grande thématique de l'année, hein, c'est intelligence effectivement au pluriel. Donc, toutes les formes d'intelligence, et il y en a sur lesquelles auxquelles on peut penser tout de suite, mais il y a plein de formes d'intelligence différentes et il y a beaucoup de gens de différentes domaines, de différentes thématiques, travaillent sur cette thématique-là. Et donc, c'est assez complémentaire sur tous ces aspects et puis toutes ces formes d'intelligence.
Quand on fait de la recherche, c'est forcément un niveau poussé d'analyse, de connaissance. Comment on met ça à disposition du public qui ne comprend pas toujours tous les termes ? Est-ce que c'est facile ou est-ce qu'il faut tricher pour réduire quelque chose qui est beaucoup plus complexe et qui serait intéressant pour le coup ? Quoi qu'on peut toujours imaginer, si ça passionne, faire des études dans le domaine.
Exactement. Alors, en fait, c'est assez inégal et assez injuste, parce qu'il y a des thématiques pour lesquelles c'est beaucoup plus simple que d'autres, en particulier de concevoir des ateliers, de faire des choses visuelles. Alors, moi, personnellement, je travaille en informatique, en intelligence artificielle, et l'informatique, c'est compliqué de faire des démonstrations dessus parce que ça se passe dans une machine globalement et c'est beaucoup moins impressionnant qu'un collègue qui fait des expérimentations en physique ou en biologie. Mais tout le monde travaille à essayer justement de rendre ça à la fois palpable, intéressant et amusant pour tout le monde. Donc oui, il faut souvent faire des petites simplifications, mais simplement au moins donner l'idée de ce que l'on peut faire et de comment on le fait. Ouais.
Donc chaque année, la fête de la science choisit un thème particulier. Cette année, c'est donc, on l'a dit, intelligence avec un S. C'est un thème quand même porteur en ce moment. Enfin, il y a de grands débats autour de ça. Il devrait y avoir de grands débats.
travaillant en intelligence artificielle et vu l'engouement qu'il y a pour ce domaine actuellement, oui, c'est un thème qui semble porteur, l'intelligence, mais justement, c'est l'occasion de s'interroger plus globalement. Donc, au moment où on voudrait faire des machines intelligentes, hein, faire des ordinateurs intelligents, ben s'interroger sur ce que c'est que l'intelligence. C'est-à-dire que ce n'est déjà pas une question facile chez l'humain. Déjà, on sait qu'on rencontre aussi une forme d'intelligence chez les animaux qui n'est pas la même non plus que chez les humains et qui parfois, enfin, de manière surprenante, on sait aussi que des plantes peuvent faire preuve d'une certaine intelligence collective, par exemple. Et donc, il y a plein de formes différentes et il y a plein de choses à dire sur ces différentes déclinaisons de ce que pourrait être l'intelligence.
Alors c'est vrai que selon les domaines, par exemple, représenter un cerveau humain avec son intelligence, où se situe-t-elle? Ce n'est pas facile.
C'est un champ de recherche à part entière. Hein, les neurosciences, une partie des neurosciences, et c'est effectivement essayer de trouver quelles sont les zones qui correspondent à quel type d'activité. Intellectuelle, on va dire. Mais ouais, non, c'est une question. Déjà, simplement, rien que le terme de définir ce que c'est que l'intelligence est compliqué. Donc, c'est même pas une question. Avant d'être une question, on va dire, physiologique et pour les neurosciences, c'est d'abord une question philosophique. C'est qu'est-ce que ça veut dire être intelligent? Et il n'y a pas de définition parfaite de cette notion.
Est-ce que la vie de l'humanité dépend de l'intelligence de ces individus?
De ces individus, je ne sais pas. De la collectivité, c'est sûr. C'est comme ça qu'on a... Enfin, c'est sûr. Encore une fois, là, pour le coup, je parle de domaines qui ne sont pas les miens. Mais si on a eu un avantage évolutif sur les autres espèces sur Terre, c'est grâce à notre intelligence collective. Donc, et donc, l'intelligence de chacun participe à cette intelligence-là.
Donc, j'imagine que puisqu'on a inventé l'intelligence artificielle, c'est que cette intelligence humaine ne suffisait plus.
je suis pas sûr que le but de l'intelligence artificielle est de suppléer ou de remplacer l'intelligence humaine. Je pense que c'est déjà une question en soi, c'est d'essayer de comprendre, parce que pour pouvoir faire raisonner des machines, rendre des machines intelligentes, faut essayer justement un peu de comprendre ce que c'est que cette intelligence, comment la décomposer, comment la simuler, et puis surtout ça peut permettre de d'aider notre intelligence, de nous permettre de résoudre des problèmes plus difficiles, l'humain et la machine.
Quand on met des personnes qui ont étudié, instruites et dans des domaines, on peut en faire des laboratoires de recherche par exemple, hein, c'est là qu'on voit que l'intelligence rassemblée, ça peut servir aussi à développer la science.
Voilà, c'est comme ça qu'on avance et effectivement, la plupart des thématiques de recherche se font en groupe. Hein, et effectivement, on voit très vite qu'ensemble, on produit des choses plus élaborées, plus intelligentes que quand on travaille chacun de notre côté. Ouais.
Donc vous travaillez dans un labo spécifique, justement, qui approfondit l'idée de l'intelligence artificielle, comment on peut par la suite la mettre à disposition. En ce moment, évidemment, c'est une vraie question. On sent des évolutions considérables de la société. On commence à intégrer ces outils d'usage planétaire maintenant. Hein. Donc, comment on peut, dans un labo, répondre à une demande collective qui est, on a besoin de l'intelligence artificielle, donc vous, labo d'informatique, il faut y aller, quoi. On va vous donner de l'argent pour le faire.
C'est ce qui est en place à l'heure actuelle. On a de la chance, effectivement, dû à ce besoin et à cet engouement à l'heure actuelle, d'avoir plus de financement que d'autres domaines, malheureusement, puisque les financements de la recherche en France sont ce qu'ils sont. Alors, en tant que chercheur, je pense que les chercheurs diront que ce n'est pas suffisant, mais je ne sais pas s'il y a des pays où ils disent que ça le soit. Mais en tout cas, on a des moyens supplémentaires pour essayer effectivement d'améliorer ce que l'on sait de l'intelligence artificielle et puis de pouvoir amener ça vers le grand public. Oui.
Alors c'est vrai que la question de l'argent, on dit c'est le nerf de la guerre et on parle beaucoup de guerre aussi en ce moment. Hein. Ça peut occasionner des fuites de cerveau, pour le coup, donc d'intelligence, d'une certaine manière.
Mais c'est exactement ce qu'on observe en intelligence artificielle, hein, c'est que il y a un certain nombre de personnes, de cerveaux, hein, qui s'en vont vers États ou vers des entreprises qui payent plus et puis donnent de meilleures conditions de travail. Hein. C'est une compétition mondiale hein, parce que y a des intérêts, on va dire, sociaux importants, mais il y a aussi des intérêts économiques importants. Donc certaines entreprises payent très cher pour débaucher un certain nombre de personnes.
C'est vrai que quand on émigre pour des raisons de travail, il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y a des pays qui cherchent des cerveaux. Alors, même nous, en France, on cherche des cerveaux qui viennent pas forcément des mêmes pays que ce que cherche le Canada, ou etc. Forcément, il y a aussi, sur une vie, comment on s'installe dans un pays, pour y faire quoi et pour qui ?
Alors oui, c'est une question et il faut effectivement se rendre compte. On parle souvent de fuite des cerveaux quand on parle de l'intelligence artificielle actuellement, mais il faut se rendre compte que la recherche, c'est une espèce de marché, on va dire, globalement. Enfin, votre recherche, vous pouvez la faire un peu n'importe où. La période contemporaine, hein, un chercheur peut aller décider d'aller s'installer dans tel ou tel pays. Et alors, on parle de fuite de cerveau, mais il faut aussi voir que la France attire aussi un certain nombre de collègues de chercheurs internationaux. Et il faut aller voir dans les laboratoires. Les laboratoires sont très, très divers en termes de nationalité. Moi, je pense que dans mon laboratoire, je pense qu'à peu près, alors je n'ai pas fait les comptes, hein, mais je pense qu'à peu près la moitié de nos collègues sont venus s'installer en France. Ils n'étaient pas français à l'origine. Et c'est sain, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir ce mélange d'idées et de capacités des gens qui peuvent aller ou venir. Et donc c'est important de rester un minimum attractif pour continuer à ce que justement les bons éléments d'autres pays puissent venir travailler chez nous.
Alors je ne sais pas si j'aurai la réponse en allant au CHU. Est-ce qu'on peut améliorer l'intelligence humaine avec quel procédé ou est-ce qu'on peut lui greffer quelque chose? Tout au moins, on voit bien que tous les outils dont on dispose maintenant, qui se développent très vite, sont des prolongements en fait de la mémoire d'une certaine manière et aussi de la façon dont les données qui viennent de l'extérieur peuvent être utilisées par notre intelligence ou nos besoins pour en faire quelque chose.
Oui, alors pareil, hein, c'est pas mon domaine, hein, mais l'intelligence humaine, on peut l'améliorer, on peut juste apprendre à mieux apprendre. Il y a des méthodes aussi, on peut mieux comprendre comment. Il y a plein de choses autour de, il y a plein de travaux autour de la didactique ou des problèmes de en psychologie, hein, comment mieux apprendre hein, ou comment échapper à ses biais, par exemple. Donc c'est des choses très connues, le fait que l'humain est sensible à plein de biais cognitifs et donc connaître ses biais, ça nous permet aussi de lutter contre. Et il y a un très bon, un très beau livre de Kahneman qui s'appelle Les deux vitesses de la pensée, où il énumère plein de biais cognitifs. Et donc, je conseille à tout le monde de lire ce livre-là. Il y a plein de biais auxquels on n'est pas conscient de les avoir et dont on est tous auxquels on est tous sensibles. Donc déjà, en travaillant sur nous, on peut améliorer notre intelligence. Ensuite, effectivement, on peut aussi utiliser des outils. Et un outil, par exemple, c'est l'intelligence artificielle. C'est utiliser des machines qui nous permettent de résoudre plus efficacement une partie de notre problème et donc de nous permettre de penser plus rapidement, on va dire. Et ensuite, il y a un courant hein, qui s'appelle... Le transhumanisme, hein, où il y a des gens qui imaginent connecter hein, des cerveaux avec des machines. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Il y a quelques expérimentations. C'est quelque chose qui pourrait permettre d'augmenter l'intelligence des gens. Je trouve ça plutôt dangereux qu'autre chose, mais voilà.
Alors, c'est vrai qu'il y a l'éthique. Peut-être en parler un peu. Il y a un comité d'éthique en général dans toutes les universités.
Alors, pas dans toutes les universités, mais au niveau français, on a un grand comité d'éthique, en particulier sur l'intelligence artificielle. Et puis, il y a plusieurs comités d'éthique au niveau national et qui ont une importance en particulier quand on touche à ce genre de questions-là. Donc, ça existe depuis longtemps en biologie, par exemple, pour savoir ce qu'on a le droit ou pas de faire comme expérimentation. Et ça va être de plus en plus important en intelligence artificielle pour édicter, pour savoir ce qu'on peut ou ne peut pas faire avec l'intelligence artificielle. Et en particulier, il y a déjà eu quelques lois hein, qui ont été votées au niveau français, au niveau européen, pour essayer de commencer à encadrer cela, Donc des lois qui sont plus ou moins critiquées, suivant que vous êtes pour justement essayer de protéger les gens ou de comment dire, favoriser la recherche et l'investissement. Ce qui sont des buts qui ne sont pas forcément très compatibles. Mais pour le moment, donc, l'Europe et la France ont commencé à légiférer sur ces applications d'intelligence artificielle.
Donc les applications, les usages, bien sûr, donner un contrôle, amener un contrôle à des pratiques, c'est important. Au niveau de la recherche, c'est difficile de brider la recherche sans qu'elle puisse éventuellement être adaptée à des futurs usages. Enfin, on peut difficilement la bloquer complètement dans certains domaines, même s'ils ne paraissent pas éthiques d'une certaine manière. Est-ce que le fait de ne pas les explorer, ça nous mettrait en danger en cas où on aurait besoin d'avoir fait ces recherches?
C'est un vrai argument. Et c'est effectivement une question qui est compliquée. C'est-à-dire c'est compliqué de brider la recherche. Et la question, c'est est-ce que c'est souhaitable? C'est-à-dire que développer ces outils, hein, qui avant tout sont quand même là, enfin, on parle de certains mauvais usages potentiels, mais c'est avant tout du progrès, et c'est avant tout là pour nous aider, en fait, globalement. Donc mieux comprendre l'intelligence, mieux faire certaines tâches, et puis donc nous suppléer sur un certain nombre de questions. Et donc c'est pas la recherche ou la connaissance qu'il faut brider, ce sont juste les mauvaises utilisations. C'est-à-dire que si vous développez un outil, le problème, ce n'est pas l'outil, c'est ce que vous en faites.
C'est vrai qu'avec le Covid, on s'est quand même un peu penché sur le danger des laboratoires de manipulation. Donc, depuis, il y a peut-être eu une réflexion autour de ça, c'est jusqu'où on laisse faire et quelles précautions on prend autour de ceux qui font.
Mais c'est un exemple que je prends souvent. C'est-à-dire que quand des gens disent mais il faudrait freiner ou arrêter la recherche en intelligence artificielle, bon, en dehors du fait que ce serait compliqué, mais on ne bride pas la recherche sur les virus et sur les microbes alors qu'il peut y avoir des échappements, par exemple, hein, puisque un échappement du laboratoire de Wuhan est visiblement...
Non, on ne va pas dire ça.
Est visiblement une hypothèse possible.
Elle
est possible. Je ne dis pas que c'est l'explication. Mais c'est-à-dire que c'est un scénario qui peut arriver. Des recherches en physique peuvent aussi avoir certaines, ou par exemple sur les nanoparticules, ça peut avoir de grands effets négatifs. Est-ce qu'on va arrêter toute recherche? Parce que je pense que toute recherche, tout progrès peut être bien ou mal utilisé. Donc, si on arrête la recherche en intelligence artificielle pour certains effets négatifs possibles, pourquoi on s'arrêterait à l'intelligence artificielle? Et donc, pourquoi on n'arrête pas la recherche en physique, en biologie, etc.?
Alors, c'est vrai que parfois, on pense aussi à cette vieille histoire d'apprenti sorcier. Comment on voit à l'époque actuelle qui serait l'apprenti sorcier et qu'est-ce qu'on limite justement dans le fait d'aller vers des choses, alors bien sûr inédites, c'est le principe de la science et de la recherche, mais aussi vers des choses irréversibles.
Cette irréversibilité, c'est la vraie grande question, mais encore une fois, qui ne se pose pas que pour l'intelligence artificielle. Hein, on a plein d'enjeux de société, d'enjeux scientifiques à l'heure actuelle, où on sait que si on dépasse une limite, il va y avoir un souci. Il peut y avoir un gros problème en intelligence artificielle si un jour une IA s'échapper, ces scénarios qui commencent à être évoqués. Pour le moment, on est loin d'être là. Et c'est important de se questionner sur ces scénarios, mais ce n'est pas une question actuelle. Mais d'où l'importance, effectivement, de ces comités d'éthique et de développer, en même temps qu'on développe ces outils, les mesures pour empêcher de trop grands dangers potentiels avec ces outils.
Donc, le commun des mortels n'a pas forcément conscience des dangers très précis qui se profileraient à l'horizon. Est-ce que ceux qui écrivent, pensent de la science-fiction seraient plus en avance, auraient plus de capacité à donner les idées des freins nécessaires?
Mais je pense qu'on peut s'en inspirer, en particulier sur des sujets effectivement comme l'intelligence artificielle où il y a eu beaucoup de science-fiction dessus. Je pense que ça nous donne pas mal de scénarios possible. Premièrement, ce sont que des œuvres de fiction où il n'y avait pas de réalité technologique derrière. C'est-à-dire que ça ne vous donnera pas une clé pour savoir comment résoudre le problème. C'est-à-dire que ça peut illustrer des problèmes potentiels, mais ça ne vous donnera pas d'indice sur comment régler ou limiter ces problèmes.
Donc, ce que je voulais dire, c'est l'imagination. Tout le monde n'a pas forcément un degré puissant d'imagination et l'imaginaire aussi. Il y a des pays où on n'a peut-être même pas le droit d'imaginer. Donc, est-ce que l'imagination, ce n'est pas ce qui peut élargir nos bases pour analyser, réfléchir et suggérer un avenir?
Mais l'imagination, en tout cas, mais c'est aussi le fondement de la recherche, c'est-à-dire que c'est essayer de trouver des choses nouvelles. Et c'est aussi quelque chose qui donne, enfin qui est un avantage, on va dire, de l'humain sur la machine. Hein. C'est-à-dire que imaginer quelque chose, c'est quelque chose de assez profondément humain quand même. Et donc, oui, il va falloir réussir à, enfin, essayer de imaginer hein, ces scénarios et puis ce qu'on peut faire pour les éviter.
Alors l'imagination c'est une chose, la créativité c'est une autre chose et j'ai vu beaucoup d'étudiants en art par exemple qui utilisent bien sûr l'IA ou d'autres techniques hein, pour mettre en avant, faciliter leur processus de création artistique. C'est aussi un beau domaine, ça.
Ben, c'est justement là où il faut voir l'intelligence artificielle actuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des dangers, y compris actuels, ou des dangers futurs dont on a commencé à parler, on pourrait parler aussi beaucoup. Mais il y a aussi plein d'usages actuels et potentiels très, très intéressants d'intelligence artificielle. Et donc, ce dialogue possible entre les IA et les artistes ben, pour effectivement co-créer des choses ou aider à la création, ça fait partie de ces choses intéressantes potentielles. Mais comme, par exemple, un médecin peut interagir avec une IA pour l'aider à améliorer un diagnostic sur une maladie.
Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on est à la croisée des chemins ou si on est dans un sens logique de l'évolution. Alors, l'évolution de l'espèce humaine, je ne sais pas, de l'humanité sans doute. La notion de responsabilité est évidemment au cœur du projet.
Mais ça dépend du but que l'on a, effectivement. C'est-à-dire que si le but, c'est de créer une nouvelle civilisation, qui serait une civilisation de machines, etc., c'est un changement civilisationnel. Si le but de l'IA, c'est simplement de créer des machines qui aident les humains et qui résolvent un certain nombre de tâches plus efficacement que les humains, mais ça va juste fournir une prochaine étape de l'évolution de l'espèce humaine. C'est-à-dire une étape où il y a des problèmes qui se posaient autrefois, qui étaient compliqués, qui le sont moins maintenant.
Alors, qui définit le but ou les buts hein? Est-ce que c'est l'État, là, en l'occurrence la France? Est-ce que c'est une collectivité de nations, je sais pas, l'ONU ou je sais pas? Qui prend les responsabilités? Est-ce qu'il y a un chef? Est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion?
Alors, il n'y a pas de grand chef de la science et donc il n'y a pas grand chef de l'intelligence artificielle non plus. Il y a des gens qui ont des intérêts intellectuels, des gens qui ont des intérêts économiques pour développer ces outils. Et effectivement, c'est le rôle des politiques et c'est le rôle de la France, de l'Europe, des Nations Unies éventuellement, de dire ce pourquoi cette science peut être utilisée ou pas, comme d'autres sciences, mais de savoir où sont les limites et ce que l'on veut en faire.
Voilà, donc la fête de la science, c'est combien de temps, combien de jours, c'est de quand à quand exactement?
Alors, j'ai plus les dates sous la main, mais c'est plus d'une semaine. Alors, ça va commencer ce week-end, il y a des premiers événements vendredi soir. Ouais. Donc, il y aura des événements ce week-end un petit peu partout, et puis ça va durer jusqu'à la semaine prochaine.
Alors,
c'est du 3 au 13 octobre, voilà. Plus exactement.
Donc, il y a beaucoup de lieux qui sont concernés. Alors, bien sûr, il y a plusieurs façons d'aller voir le programme. Déjà, d'aller sur le site fetdelascience.fr. Donc, déjà, ça donne une idée. Dedans, il y a une carte. On peut choisir les Hauts-de-France, par exemple. Hein, mais ceux qui nous écoutent ailleurs peuvent peut-être aller voir d'autres départements. Je ne sais pas si c'est une fête internationale, c'est que français
ou... Non, je pense que c'est que français. Je ne sais pas si d'autres nations le font.
On peut être fier quand même.
Bah oui, c'est une super initiative.
Voilà. Et puis, c'est surtout l'occasion aussi pour les gens, de rencontrer des spécialistes, des chercheurs et poser des questions.
Exactement, c'est un vrai lieu d'échange et de rencontre. C'est-à-dire que il va y avoir, dans beaucoup d'endroits, ce sont des ateliers, etc., où on va avoir quelques démonstrations, mais surtout, on peut échanger avec les chercheurs. C'est-à-dire que si vous avez des questions sur une problématique ou sur un autre, vous pouvez aller poser vos questions et ils seront ravis de vous répondre sur toutes les questions que vous pourriez avoir. Et effectivement, alors vous pouvez aller voir sur la fête de la science, il y a, j'ai dit, 50 communes dans la région, donc il y a forcément quelque chose près de chez vous. Donc vous pouvez aller voir ce qui est le plus près de chez vous, essayer de sélectionner la thématique qui vous intéresse. Ou sinon, il y a une dizaine de lieux qui s'appellent les villages de la science, où il y a plusieurs ateliers. Et donc, vous pouvez juste, si vous ne savez pas quoi aller voir, vous pouvez y aller. Il y aura forcément au moins un des ateliers qui va vous intéresser, quoi. Donc il y en a à Lille, à Arras, au centre minier de Leuward, Capelle, Villeneuve-la-Grande. Béthune, Brevet et Saint-Omer dans le Nord-Pas-de-Calais.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous emparer de ce thème de cette année, un beau thème, intelligence avec un S. Et puis, si ça vous tente, on parlait tout à l'heure de fuite des cerveaux, mais on pourrait aussi parler de comment on les amène, ces cerveaux, en capacité de réfléchir, c'est-à-dire former des scientifiques.
Exactement, c'est aussi un moyen de venir voir ce que c'est que la science, ce que ça peut faire et surtout comment on l'a fait. Et puis essayer effectivement de générer des vocations. Et puis on espère que les futurs scientifiques de demain viendront pendant toute cette semaine voir les ateliers et puis venir nous poser des questions et échanger avec nous.
Merci Sébastien Konieczny et puis bon vent à cette nouvelle édition et que Radio Campus va suivre bien sûr puisque pendant 3 semaines nous aurons une émission d'au moins 1 heure consacrée à cette fête de la science 2025. Bonne journée.
Merci beaucoup.